La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin et bienvenue à Jacques Mérienne qui vient de Saint-Eustache, de l'église juste à côté, en voisin, pour partager avec nous ce moment œcuménique. Le moment où nous avons choisi de l'inviter pour partager avec nous sa prédication dans le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens cette année, « Crois-tu cela ?» avec l'évangile de Jean dans le chapitre 11. Nous avons la chance de connaître nos frères catholiques à côté dans notre quartier et de pouvoir partager des moments de fraternité, notamment avec le groupe œcuménique qu'animait Agnès Adeline Schaeffer ici, avec le père Yves Trocherie. Et puis avec Jacques, nous avons eu l'occasion aussi de partager des moments forts ici, et notamment la veillée qui précède la Gay Pride et aussi d'autres moments œcuméniques, et puis aussi la fête que nous avons donné en l'honneur de ma collègue Agnès ici, où Jacques était là et nous a fait l'honneur de sa présence. Merci Jacques d'être avec nous ce matin. Peut-être as-tu un message à nous donner de la part de ton église?
Oui, bien sûr, c'est un message d'unité. On est une communauté qui est un peu bouleversée en ce moment, il y a des tas de problèmes, mais on pense à vous.
Très bien, alors on voit que dans toutes les églises, il y a des choses à régler. C'est comme ça, ce sont des institutions humaines et nous essayons au maximum de les laisser se faire, inspirer par l'Esprit du Seigneur pour que nous puissions cultiver la paix dans toutes nos communautés. Et c'est ce que nous souhaitons à ton église et à la nôtre. Je vous invite maintenant à prendre ensemble le premier répond et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin et qui sont peut-être loin et peut-être dans la tristesse de ne pas être avec nous, peut-être aussi empêchés par la maladie ou toutes sortes de choses qui les empêchent de venir rejoindre la communauté. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle. Je voudrais aussi saluer le chœur de l'oratoire qui est là ce matin avec nous, avec Alexandre Korovitch qui conduit ce chœur, et c'est Sarah Kim qui est à la tribune d'orgue ce matin et qui nous accompagne. Je vous invite à chanter pour entrer dans ce temps de culte avec le premier répond. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Et nous louons Dieu avec cette louange que j'ai tirée des confessions du Père de l'Église, Saint-Augustin. Car nous avons tous ces Pères de l'Église en commun dans nos églises chrétiennes. Avant peut-être que les choses ne se durcissent et ne se raidissent dans des confessions très séparées, il y a eu énormément de temps où les uns et les autres ont cherché leur voie, avec parfois beaucoup de violence malheureusement, mais aussi avec parfois beaucoup de sincérité et d'amitié, et de ce doute nécessaire, puisque nous ne savons pas Dieu, nous le cherchons ensemble. Lorsque j'aime mon Dieu, mais aussi ciel et terre, et tout ce qu'ils contiennent, les voici me disant de partout de t'aimer. Mais qu'est-ce donc que j'aime quand je t'aime? Non la beauté d'un corps, ni le charme d'un temps, ni la brillance de la lumière, cet ami de mes yeux d'ici-bas, ni les douces mélodies des chants de toutes sortes, ni les fleurs, ni les parfums, ni les aromates, la suave odeur, ni la manne et le miel, ni les membres ouverts aux charnelles étreintes, non. Ce n'est pas ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu, Et pourtant j'aime une certaine lumière, une certaine voix et un certain parfum, un certain aliment, une certaine étreinte. Lorsque j'aime mon Dieu, lumière, voix, parfum, aliment, étreinte de l'homme intérieur qui en moi est présent, où brille pour mon âme ce que l'espace ne peut enfermer, où résonne pour elle ce que le temps ne peut pas voler, où s'exhale un parfum que le vent ne dissipe pas, où se savoure un mets que la voracité ne réduit pas, où se noue une étreinte que la satiété ne desserre pas. Oui, voilà ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant », les strophes 1, 2 et 3. Écoutons la volonté de Dieu pour nous. Dans le psaume premier, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Nous nous présentons devant Dieu avec ce qui nous sépare de lui. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit « Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes alors s'ébranleraient devant toi. » Chers amis, levons-nous pour recevoir la grâce renouvelée sur nous, cette parole d'amour que Dieu nous envoie chaque jour, que nous peinons parfois à entendre, mais il nous dit sans cesse qu'il vit en nous, que son esprit nous anime, sa force transforme notre faiblesse, sa miséricorde nous relève de notre misère, sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mois, notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Celui qui nous dit et nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Nous confessons ensemble notre foi ce matin. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à toutes et tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais laisser mon ami Jacques s'installer en chair pour pouvoir nous partager la parole aujourd'hui. Merci Jacques. Et je te laisse dire la doxologie.
Gloire à Dieu dans les cieux, sur la terre et d'éternité en éternité. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 11, versets 17 à 27. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Crois-tu cela ? C'est la question que Jésus finalement pose à Marthe, avant même qu'il ne ressuscite son frère, Lazare. Et c'est aussi le thème qu'a pris cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens dont nous célébrons la conclusion. Cette année est aussi l'anniversaire du premier concile, celui de Nicée, il y a 1700 ans. 300 évêques environ venus de toutes les provinces de l'Empire, c'était l'Empire romain, se réunissaient à Nicée, qui est dans l'actuelle Turquie. Une déclaration commune est réalisée, et bien sûr, elle va vite éclater. Il en faudra un autre de concile pour la rattraper, puis d'autres encore. On n'y est jamais arrivé. Mais on n'a pas perdu tout espoir, puisqu'on se réunit ce matin. On se réunit au moins une semaine par an. Béatrice nous a rappelé que pour nous, c'est un peu plus souvent. Une synthèse des conclusions est faite, c'est ce qu'on appelle le credo dans nos églises, je crois en latin, on vient de le dire ensemble. Credo souvent récité dans toutes les célébrations. Je reviendrai là-dessus, c'est important. Certains ayant derrière la tête l'idée qu'en répétant des formules, elles deviendront des vérités qui s'imposent à tous, au-dedans comme au-dehors des communautés. Mais la synthèse ne fait pas l'unité. Je retiens la remarque d'un théologien orthodoxe qui m'a beaucoup marqué en son temps. Il disait « Le dogme est une formulation que l'on fait à regret. » J'en suis convaincu. Où la vérité est vivante, dynamique, alors elle est toujours plus nourrissante. Ou alors la vérité est solidifiée et destinée à nous congeler. Alors, qu'en est-il au niveau des fidèles que nous sommes ? Beaucoup de barrières ont encore besoin d'être levées. qu'elle soit due à des contentieux historiques, ou alors plus récents. Le dernier exemple qui me vient à la tête, c'est la bénédiction pour les couples homosexuels acceptée par Rome et par le pape en début d'année, qui a refroidi beaucoup de relations avec certaines communautés de croyants, disons plus conservatrices. Quoi qu'il en soit, en cette année 2025, il y a une convergence des calendriers et nous célébrerons le 20 avril Pâques tous ensemble, du moins à la même date. Alors pourquoi pas tous ensemble ? Mais aujourd'hui, nous lisons cet évangile merveilleux de Jean, un évangile plein de pièges, de sens multiples. Il nous raconte cette arrivée de Jésus dans la maison de son ami Lazare, qui vient de décéder. Il aurait pu le guérir tant qu'il était malade, dit Marthe, mais il a mis trop de temps. S'il s'était un peu pressé, on n'en serait pas là. Son frère ne serait pas mort et enterré. Et pourtant, Marthe semble montrer que ce n'est pas ce qui compte le plus pour elle. Elle n'est pas dans le reproche. Elle est dans la foi. Son ami Jésus est pour elle la résurrection et la vie. Même saisie par la mort de son frère, par la douleur du deuil, elle reste ouverte à l'avenir. Elle interpelle Jésus. En arrivant en retard, tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire, c'est-à-dire guérir mon frère, mais tu vas faire ce que tu sais faire. Elle a foi en Jésus, sans même savoir ce qui va se passer. Et Jésus lui répond qu'il a foi en lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Et donc il va pouvoir réaliser l'espérance de Marthe. Alors, à ce moment de la lecture, il est important de noter que Jean situe ce dialogue entre Jésus et Marthe avant qu'il accomplisse quoi que ce soit. La foi de Marthe la projette dans un avenir qu'elle ignore, mais elle a confiance. La foi de Jésus le projette dans ce qui sera son propre avenir à lui dans quelques jours, à Jérusalem, nous savons, sa passion. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Aucun geste n'est encore accompli, mais leur foi à tous les deux manifeste ce qui est déjà réalisé, la manifestation de Jésus comme sauveur. Et Jésus termine son annonce par cette question, donc, que nous répétons depuis le début de notre célébration. Crois-tu cela ? En réponse, elle fait une confession de foi, c'est son credo à elle, qui ne porte pas sur le pouvoir qu'a Jésus, celui de faire des miracles, signe de la puissance de son Père. Non, son acte de foi porte sur l'identité de Jésus. Elle reconnaît que son interlocuteur et son ami est celui que depuis des siècles et des siècles le peuple juif attendait. Oui, Seigneur, répond-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Le récit que fait Jean donc dans cet épisode, ce n'est pas le récit d'un miracle, c'est d'abord le récit d'un acte de foi, le récit de la conversion de Marthe qui, de juive en espérance du salut et de la venue du Messie, devient une chrétienne qui voit venir le Christ au cœur de sa propre vie, ici et maintenant.
Crois-tu cela ? Nous ne pouvons pas lire ces mots dans l'Évangile sans évidemment les prendre aussi pour nous-mêmes. Est-ce que je crois cela ? C'est donc le titre donné à cette semaine de l'unité des chrétiens, c'est surtout une question qui se pose à chacun de nous constamment dans tous les aléas de notre existence et qui, une question qui se heurte à notre inertie. Avoir plus d'idées que de possibilités pour les réaliser, avoir plus de questions que de réponses, avoir plus de défis que de pistes à ouvrir. Croire est personnel au sens où cela engage toute ma personne, mais croire n'a de sens que vécu ensemble, en communauté. Alors posons-nous ensemble cette question. Qu'est-ce que croire ? C'est une vaste question. J'en retiens ce matin quelques aspects. D'abord, croire, c'est la recherche d'une vérité vivante. La foi exprime, dévoile ce qui est le plus humain dans l'homme. Les aspirations, les réalisations, les angoisses, les joies, les souffrances, les délivrances, les espoirs et les rêves qui fécondent une vie. Le croyant cherche à comprendre l'homme et le monde à la lumière de l'Évangile, mais de l'Évangile pris comme une bonne nouvelle qui exprime la vérité sans la séparer ni l'opposer à la vie. Croire, c'est toujours au présent qu'on le fait. On s'y attache de manière définitive, alors nos vérités se flétrissent, se radicalisent, elles nous enferment. Nous croyons dans le présent, en ce qu'il est pour chacun de nous individuellement. C'est l'éternité pour l'humanité, notre présent. Croire, c'est refuser la discrimination, le rejet de l'autre, la rencontre de l'autre, semblable ou différent, est la condition même d'une foi vivante, en éveil, en communion, de l'autre qui est dans cette rencontre et reste l'autre, reste lui-même, comme moi-même, je reste moi-même. La foi recèle cette puissance inégalable de l'ouverture à l'autre, parce qu'elle n'enferme pas dans cette ouverture, elle n'enferme pas dans des mots, des croyances, parce qu'elle ne renvoie pas des idéologies préalables sur lesquelles il faudrait être d'accord, savoir regarder nos différences non pas comme des divisions, mais comme l'effet de la complexité de notre nature humaine. Capables de se rejoindre. Nous avons le même horizon par des chemins différents. Croire aussi, ce n'est pas une connaissance, c'est une expérience. La foi n'est pas un ensemble d'idées, c'est une vie. C'est en croisant leurs expériences spécifiques que les croyants découvrent qu'ils sont eux-mêmes issus d'une expérience qui à la fois les dépasse et les réunit. Notre communion est une expérience qui renaît à chaque fois que nous nous rencontrons. C'est pour ça qu'elle est toujours vivante. Une expérience qu'il est impossible et inutile de vouloir institutionnaliser. Comme le feu ou la neige, il est impossible, inutile, de vouloir figer et matérialiser notre expérience. Car croire, c'est ouvrir un avenir. Devant la foi, prenant conscience d'elle-même, le croyant est converti par ce qu'il reçoit pour aller plus loin que lui-même. Converti par ce qu'il voit de nouveau dans sa vie, dans le monde, qu'il ne soupçonnait pas, ce qu'il voit, y compris lui-même, se découvrant l'envie, le dynamisme d'aller toujours là où se joue son existence, l'existence des siens, l'existence de son peuple. Et à propos d'avenir, nous pouvons, à l'occasion de cette semaine de l'unité, nous poser des questions sur nos églises, pourquoi pas, ce qu'elles deviennent, ce qu'elles pourraient devenir. Car le nouveau visage de l'Église est toujours à inventer. Aujourd'hui, plus qu'hier, par exemple, les catholiques terminent une longue période de réflexion sur la synodalité, une réforme du pouvoir exercé, de la hiérarchie, du rôle de chacun. C'était une invitation officielle à faire preuve d'audace et de créativité, mais cela a plutôt rappelé les obstacles et les freins qui demeurent. Ils sont trop forts encore. Mon espoir, c'est que puissent toujours souffrir des pages blanches. Car les forces sont là. Beaucoup, une majorité de laïcs sont prêts à participer à ce travail d'invention, de création, en y mettant leur expérience, leur intelligence, leur cœur, leur foi, pour susciter de nouvelles formes de communautés porteuses d'évangiles dans tous les coins du monde, au service de tous les hommes. Car si au lieu de ne nous occuper que de nous-mêmes, nous travaillons ensemble à sauver dans cette société en dérive ce qui est le cœur de notre humanité, ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend libres, ce qui nous rend féconds. Croire, c'est anticiper un monde nouveau. C'est parier sur l'avenir. Ne pas se réfugier dans le passé. Croyons-nous en cela.
Je vous invite à prendre le cantique 214 dans les louanges et prières. 214, les strophes 1 et 3. Je vous invite à vous asseoir et c'est Denis qui fait partie de notre conseil presbytéral qui va partager avec nous les annonces.
Bonjour chers amis de la paroisse de l'Oratoire du Louvre et bonjour chers amis qui venez d'autres communautés à l'occasion de la semaine de la prière pour l'unité chrétienne. Nous remercions aussi ceux qui nous suivent par Internet. Et merci beaucoup au Père Jacques Mérienne pour sa belle prédication. Merci aussi Madame la Pasteur. Pour la musique, merci beaucoup Sarah Kim à l'orgue, le chœur de l'Oratoire du Louvre, dirigé par Alexandre Korovitch. Et puis Madame Delin d'avoir préparé un beau temple avec les paroles, par exemple, enfin les numéros des cantiques qui sont inscrits au mur à chaque fois. Ça prend du temps. Cette semaine commencera par les cours de grec biblique, lundi et mardi, ainsi que l'atelier des artistes protestants, un atelier de peinture pour ceux qui aiment apprendre et peindre. Samedi prochain, ce sera le brunch libéral de 10h à 12h30 et nous aurons comme invité tout ce week-end le rabbin Josué Ferreira, qui vient de la communauté libérale de Montpellier, j'ai oublié le nom de la c'est marqué dans la newsletter, et le thème sera réinterpréter la parole de Dieu dans les épreuves de la vie, je crois, oui, c'est ça. Dimanche matin, à 10h30, le culte sera à nouveau présidé par le rabbin Josué Ferreira, et nous serons très heureux de l'accueillir. Auparavant, aujourd'hui, à l'issue de ce culte, il y aura l'initiation au protestantisme. Vous savez que c'est quelque chose de nouveau depuis quelques temps, depuis cette année ou l'année dernière, qui sera proposé par Béatrice. Et vous êtes tous invités à un déjeuner. Vous pouvez venir dès 12h30 en salle mono à la maison presbytérale, qui est 4 rue de l'Oratoire, et prendre, vous êtes invités vraiment à ce déjeuner. Et puis ensuite, de 13h30 à 15h30, il y a un moment d'initiation au protestantisme. Ce sera accueillir, présenter et baptiser, le thème. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole aussi à une jeune fille de la troupe des Goélands.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est du clan des Goélands et on fait une vente de gâteaux à la sortie du culte. Donc, si vous pouvez acheter quelque chose de nos gâteaux faits maison pour financer notre projet de camp. Merci beaucoup.
Merci. La librairie aussi est à votre disposition, est ouverte depuis 10 heures, et vous pouvez acheter des ouvrages liés à la religion. À présent, c'est le moment de l'offrande. Je propose même à ceux qui sont loin de participer en appuyant sur le bouton « Don joyeux ». L'oratoire a besoin de vos financements et nous vous remercions infiniment pour votre soutien financier l'année dernière et vous proposons de continuer aujourd'hui ou alors de continuer à nous soutenir régulièrement en faisant peut-être des virements mensuels. Les coordonnées bancaires de l'oratoire sont au dos de la feuille rose ou sur la newsletter si vous la recevez ou sur le site internet de l'oratoire du Louvre. Merci beaucoup.
Nous allons entrer dans la liturgie de la scène et je voudrais rappeler à toutes et tous ici que vous êtes toutes et tous invités à partager ce repas, quelle que soit votre confession, quel que soit le chemin que vous êtes en train de prendre en ce moment dans votre spiritualité, dans votre recherche, quelle que soit votre religion, votre confession, ce repas, c'est le Christ qui l'a donné. C'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous invite. Et je crois, et notre Église, je pense, le croit avec moi, qu'aucune institution humaine ne peut empêcher quiconque de venir au repas du Seigneur. Et donc je rappelle cela pour que vous soyez vraiment convaincus que vous ne faites aucune faute si vous venez sans y avoir été préalablement autorisé par quelque règle que ce soit. La seule règle qui prévaut ici, c'est l'amitié, c'est l'accueil. Ce sont les deux commandements les plus importants, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous louons Dieu et je vous invite à vous lever. Éternel, nous te louons, tu nous donnes la vie, tu nous aimes. Quel que soit notre âge, nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il est venu vivre parmi nous. Nous te louons pour l'Esprit-Saint. Il nous rassemble avec nos différences. Il fait de nous un seul peuple, ton Église. Éternel, nous te louons pour ce jour de fête qui nous prépare à la joie de ton amour. C'est pourquoi dans la reconnaissance, nous chantons avec toutes celles et ceux qui se disent chrétiens, toutes celles et ceux qui te cherchent, toutes celles et ceux qui sont sur ce chemin de foi.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude et pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Éternel, au moment de nous approcher de cette table, le cœur rempli des chants de fête, nous voulons faire silence pour nous remémorer les paroles et les gestes de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Éternel, envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous recevions ce pain et cette boisson comme tes signes de ta présence à nos côtés. Éternel, nous te prions pour le monde dans lequel nous vivons et que tu nous as appris à aimer par ton Fils Jésus-Christ, qui est venu, inspiré par ton Esprit, dire à ceux qui l'avaient comme contemporain ton amour pour chacun. Il est venu dire comment la vie est possible ensemble sans violence, comment la vie est possible ensemble dans la juste place de chacun, comment la vie est possible ensemble dans un esprit de justice et d'amitié. Il a appris à toutes celles et ceux qui l'ont rencontré à aimer et à se laisser aimer par toi. Il a appris à toutes celles et ceux qu'il a rencontrés à être tes enfants sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine de prière, cela veut dire que nous cherchons, nous attendons, nous espérons, nous nous projetons vers un avenir où l'unité des chrétiens soit possible, non pas dans l'uniformité, non pas dans la ressemblance de chacun avec l'autre, mais dans une unité où chacun renonce à avoir raison seul. Éternel, nous te remettons nos églises ce matin, toutes nos communautés, traversées par le doute, traversées par la violence parfois, traversées par l'envie de prendre le pouvoir sur les consciences et sur les âmes. Éternel, bénis-nous pour que nous sachions que nous sommes tellement aimés par toi, que nous n'avons rien à prouver, rien à exiger, rien à demander de façon pressante, car tu nous as déjà tout donné dans ta grâce. Rappelle-nous que nous sommes ici, dans ce monde, comme des témoins d'un amour inconditionnel, un amour qui supplante toutes les morales, qui supplante toutes les lois, un amour qui reconnaît le bien fondé de toute justice humaine, tout en faisant en sorte que l'homme ne se réduise pas à ses fautes, ses erreurs, ses errements. Éternel, rappelle-nous notre rôle. Permet que nous soyons ici, à notre juste place, d'hommes, de femmes, dans ce monde, avec la mission que tu nous as confiée, qui est d'annoncer ta parole bienveillante à l'égard de toutes et tous. Nous te demandons ton aide et nous nous remettons sous ton autorité pour ne pas nous égarer dans nos propres passions, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Je vous invite à faire cercle autour de cette table, tout autour de ce temple, sur une ligne afin de faciliter le service du pain et du vin qui vont vous être proposés. Si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin, mais que vous souhaitez vivre la fraternité, venez dans le cercle et vous passerez à la personne qui est à côté de vous. Voilà, je vous invite à former ce cercle maintenant. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus-Christ avec nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est signe de la communion du Christ avec nous. Je vous invite à... Nous communierons toutes et tous ensemble. Je vous invite à juste attendre avec votre verre et votre pain que nous soyons tous servis pour communier au nom de Jésus-Christ. Merci. Frères et sœurs, nous communions au nom du Seigneur Jésus-Christ dans son amour et sa fraternité. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 150. Sarah, si tu veux bien, à toi la gloire. Les strophes 1 à 3, et vous le connaissez par cœur, je pense même sans livre, ça devrait aller pour beaucoup. Et pour les nouveaux, vous allez suivre, c'est sûr. Chers amis, chers frères et sœurs, à l'issue de ce culte, nous avons la ferme assurance que l'amitié, la fraternité et la paix sont toujours possibles, là où des hommes et des femmes de bonne volonté se lèvent pour dire que le Christ est leur guide, qu'il leur a montré l'exemple et qu'il a voulu la paix pour notre monde. Alors allez dans ce monde, allez annoncer cette amitié, allez annoncer la voie de la paix toujours possible contre la violence. Allez annoncer la voie du pardon et du regard de l'autre avec bienveillance. Soyez porteurs du Christ. Soyez les Christophores de ce temps. Nous avons besoin de chacun pour cela. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce et qui bénit chacun dans sa vie vous fait grâce et vous bénit. Amen. Et merci encore à Jacques. Merci. Merci encore à Jacques et toutes nos amitiés à la communauté de Saint-Eustache. Que tout ce qui se prépare en ce moment, qui est en train de se réaliser pour votre communauté et votre avenir, ouvre vers de nouveaux horizons qui soient radieux et qui vous apportent beaucoup de paix dans votre foi. Merci.
Merci à vous.